25 novembre 1996, cours de Raveman Shirashirim.
Oui. On avait déjà commencé. Eviani, Betayaim, Vediglo, Alai Ahava. On avait fait déjà la moitié du verset. Eviani El Betayaim, c'est le peuple juif qui s'adresse à Kadosh Baruch Hu. Il m'a amené El Betayaim vers la cave à vin. Vediglo alay ahava. Vediglo, son étendard alay, sa bannière qu'il a étendue sur moi, ahava, c'est l'ahava, c'est l'amour. On avait expliqué que et Viani El Betayaïn, ça voulait dire qu'en donnant la Torah à Israël, Dieu l'avait amené en tant que consommateur de la Torah, et non pas en tant que possesseur de la Torah. Ce qui suit, c'est plus difficile de comprendre. Vediglo, sa bannière, Alaï, qu'il a étendu sur moi, à Ava. On va essayer de comprendre. Dégel, le drapeau, l'étendard. Nous n'avons qu'une référence dans la Torah. C'est qu'au moment de la sortie d'Égypte, lorsque les Bnei Israël sont allés dans le désert, ils ont été groupés, tribu par tribu, et chaque tribu possédait un drapeau. Sur le drapeau de chaque tribu, tout le monde connaît, il y avait la bracha que Yaakov a donnée à ses enfants, qui est écrit à la fin de Bereshit dans la paracha de Vayechi. Selon la bracha que Yaakov a donnée, ainsi était l'emblème de chaque tribu. En vérité, le Midrash raconte que lorsque Dieu est apparu au Sinaï, sont apparus les anges avec lui, et ils étaient groupés de Galim de Galim, sous des bannières, sous des drapeaux. Et c'est à ce moment-là que Dieu a donné les drapeaux au peuple d'Israël, parce qu'eux aussi voulaient avoir des drapeaux. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un drapeau? Il y a une notion qui est la notion du klal, la notion de l'ensemble, et une autre notion qui est celle de ce qu'on appelle le prat, c'est-à-dire le particulier. Comment dans un ensemble qui doit rester un ensemble, le peuple juif, peut-on tenir compte du particulier? Le fait de tenir compte du particulier, ça s'appelle dégel. Lorsqu'on dit que lorsque Dieu est apparu sur le mont Sinaï, on a vu apparaître avec lui des anges qui étaient groupés de galim, drapeau par drapeau, chaque fois qu'on parle d'ange, il s'agit d'un malach en hébreu. Le malach veut dire un envoyé, un messager. C'est pour adresser un message entre Dieu et l'homme. si on voit que ces malachim, ces anges, avaient des dgalim, l'idée elle est très simple, elle veut dire qu'il y a différentes vérités, il y a différentes conceptions des choses, et que deux choses qui ont l'air antinomiques peuvent très bien être vraies tous les deux. En vérité, le Midrash, s'il amène une notion qui est connue, que lorsque Dieu a donné la Torah à Moïse, il lui a donné sur chaque halakha, il lui a donné même tête palim le kan et même tête palim le kan. 49 façons d'un côté, 49 façons de l'autre. Le Midrash fait remarquer que Degel en hébreu, si vous prenez la valeur numérique, c'est 49. Qu'est-ce que ça veut dire 49 façons, le Kan ou le Kan? On a déjà parlé de ça. En donnant une notion qui est simple. Lorsque nous disons à la fin du Shema, Hashem Elokechem, Emet. Qu'est-ce que ça veut dire Emet? Il y a deux façons de concevoir la vérité. Ou la vérité en tant que Dieu, c'est-à-dire la source de la vérité. C'est pour ça que dans la Torah, on le confond avec le mot Echad. Ça veut dire l'unicité. Le fait qu'il soit le seul, c'est ce qui donne la dimension de vérité. C'est-à-dire que l'idée que Dieu est unique et un, ça donne l'idée de vérité, dans le sens que si je suis un, je suis tout. Donc c'est moi la définition du Emet. Mais une deuxième définition du Emet, de la vérité, c'est que quelque chose est vrai par rapport à un étonnant. Lorsque nous nous disons c'est vrai par rapport ou à une logique, ou à une idée, ou à un événement. L'idée de l'unicité qui cause la vérité ne peut pas exister chez l'homme, ça ne peut exister que chez Dieu. C'est pour ça que lorsque nous disons la Torah, c'est Emet, ça n'est pas qu'elle est vraie par rapport à un système, c'est que c'est la source de la vérité, hein, puisque c'est ce qui englobe tout. Je peux dire, moi, c'est Emet par rapport à la Torah. C'est Emet par rapport à l'événement. À partir du moment où nous nous pensons par rapport à des étalons, on va dire qu'on pense toujours par comparaison. C'est pour ça qu'en hébreu, la forme la plus primitive de la pensée, ça s'appelle le machal. C'est qu'un mot a un écho, toujours par rapport à un autre mot. Si quelqu'un ne connaît qu'un mot, normalement il ne devrait pas pouvoir parler. À partir de ce moment-là, notre vérité devient relative. Pourquoi ? Parce que l'étalon peut donner source à différentes vérités. Lorsque la Torah a été donnée, elle a été réduite au niveau de l'homme, à la compréhension de l'homme. Et la compréhension de l'homme, c'est toujours une théorie qui se vérifie avec des preuves, qui se vérifie selon un consensus, mais qui peut être diverse. On peut avoir diverses vérités selon les diverses formes de compréhension des choses qu'on a. Une personne elle-même peut avoir différentes vérités et différentes façons de comparer à l'étalon, parce que qui dit comparaison dit relativisation. Et on n'arrivera jamais à coller absolument à la vérité, puisque c'est toujours par comparaison. La comparaison deviendra toujours, toujours plus proche. C'est toujours plus vrai par rapport à l'étalon. Mais je ne peux pas dire que c'est absolu. De même que dans les mesures, je n'ai aucun absolu. C'est-à-dire que je peux mesurer un mètre et que je peux le définir. Mais moi, je ne pourrais pas dire que j'ai un mètre qui est absolu. Pourquoi ? Parce que la comparaison est toujours relative. Je dirais que ça s'approche du mètre avec tant et tant de marge d'erreur, que ce soit des microns ou n'importe quoi. À partir du moment où je compare, je relativise. Donc on est obligé de comprendre que la Torah peut être interprétée de façon différente. Le même texte peut donner source à des réflexions différentes qui sont toutes justes parce qu'elles sont toutes une approximation de l'étalon qui est la Torah. La seule notion qui peut nous donner le sens d'une vérité absolue, c'est la notion de Echad, d'unicité, que nous ne possédons pas. À partir de ce moment-là, on comprend qu'on est obligé de donner la part du prat, du particulier, par rapport au clan. C'est pourquoi la Torah définit un système qui est celui de la majorité lorsqu'il y a différentes façons de comprendre. Mais ça ne veut pas dire que lorsqu'on a un statut à la majorité, la minorité a toujours absolument tort. C'est que la compréhension et la comparaison qui est faite par la majorité a force de loi, mais elle n'a pas force par rapport à la vérité. Je ne peux pas dire, c'est parce que j'ai réuni le Sanhedrin, 71 membres, et que 55 ont dit comme cela, que c'est la vérité. Je peux seulement dire que c'est la halakha. Ça veut dire qu'on a fixé que les choses iront dans ce sens-là. Mais la vérité, je ne peux pas le dire. Les autres peuvent tout aussi bien posséder la vérité. Et pire que ça, je suis prêt à admettre qu'il y ait beaucoup de vérités, puisque chaque vérité, c'est toujours une théorie qui ne peut être que approximative. Pour décrire des phénomènes, en science on fait la même chose, on lance une théorie, et celle qui décrit le mieux tous les phénomènes, on pense que c'est vrai, mais on peut avoir après une autre théorie, qui tient compte des mêmes phénomènes, et qui pour nous s'approche aussi de la vérité de la même façon. De là vient la notion de dégel. C'est-à-dire qu'il est impensable dans le peuple juif de livrer la Torah au peuple juif et qu'on soit obligé de se conformer à une seule idée. À partir du moment où on interprète un texte, à partir du moment où on répète quelque chose qui a été donné à Moshe au Sinaï, puisqu'on sait que la Torah est définie par la Torah écrite et la Torah orale, il est obligatoire que l'on en vienne à différentes interprétations et que chacune s'approche de la vérité qui a été émise par la Torah, mais qu'elle n'est pas la même. C'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a reçu la Torah, on lui a tout de suite montré que la façon qu'on a de définir la halakha peut être différente selon les gens qui l'approchent. Comment est-ce qu'on décidera ? On décidera la majorité. Mais il y a même tête panim, il y a 49 façons de pouvoir arriver à s'approcher de ce que la Torah veut. Ça, c'est la notion du dégel. Il y a encore une autre notion du dégel. Il faut savoir que la Torah, ça n'est pas seulement l'étude. C'est aussi la pratique. Et dans la pratique, il peut y avoir autant de formes de pratique que de personnes. Je m'explique. Il y a 613 mitzvot. Même chez ceux qui pensent arriver un jour à pratiquer tous les 613 mitzvot, il peut y avoir un accent qui est mis sur une mitzvah d'une façon plus importante que sur une autre mitzvah. À partir de ce moment-là, l'équilibre dans la façon de vivre selon la Torah ne sera pas le même chez chacun. On va donner des exemples très simples. Hillel et Shammai. Il est évident que lorsque la Gemara décrit la façon qu'avait Hillel de se déplacer, la façon qu'avait Shammai de se déplacer, nous on a l'impression, lorsqu'on lit les histoires, c'est que l'un de sa nature était bon et généreux, était quelqu'un de facile, était quelqu'un d'humble, c'était Hillel, et Shammai c'était le dur, le méchant. En vérité, tout le monde sait qu'il n'en est rien. C'est que la façon d'aborder les problèmes et la façon d'équilibrer les choses n'était pas la même chez Hillel et Shammai, et c'était tout à fait calculé. Ça veut dire que Hillel aurait très bien pu faire comme Shammai et Shammai comme Hillel, seulement la théorie qu'avait Hillel des choses ne correspondait pas à la théorie qu'avait Shammai des choses. À partir de ce moment-là, on est obligé de trouver une façon de s'en sortir, parce qu'il va y avoir autant de judaïsme que de juifs. C'est pour ça qu'il y a toujours eu des écoles. C'est rare que les gens qui ont trouvé un certain équilibre dans la pratique et dans ce que nous appelons la Avodat Hashem, la façon qu'ils ont de pratiquer la Torah, que ça ne donne pas lieu à des théories qui font école. Et chacun peut avoir un genre différent. Par exemple, la différence entre les kabbalistes et ceux qui n'introduisent pas la Kabbalah dans l'Halakha. La différence entre ce qu'on appelle chassidim et mitnagdim. Ce sont des choses qui ont toujours existé. Pourquoi ? Parce que dans l'équilibre qu'on a des choses, chacun va prendre un chemin qui est différent, avec les preuves qu'il a que son chemin est bon, avec la façon qu'il a de voir les choses, il va faire école, et celui qui aura la tendance qui est celle de tel et tel maître, alors se joindra tel et tel maître, et on va trouver des groupes. C'est ce qu'on appelle des Degalim. Vous verrez tout de suite que c'est inhérent à ce que demande de la Torah, qui est de grandir. La Torah demande une évolution à l'homme. Par la pratique des mitzvot, par l'étude de la Torah, on demande à l'homme de changer. C'est pour ça que vous transposez les lettres de Degel, vous avez les lettres de Gadol. Diglo ala Yahava, le Midrash le traduit par Gadol, éduqué. Là, il faut aller un tout petit peu plus loin pour comprendre. Pour s'éduquer soi-même ou pour éduquer les enfants, c'est la même chose. On est obligé de connaître deux notions. La première, c'est la notion de l'objectivité que l'on donne aux choses, que l'on jette sur les choses. Ou une chose est vraie ou elle est fausse, ou elle est bonne et elle est mauvaise. Je suis obligé, moi, de déterminer, à travers tous les enseignements que j'ai reçus, à travers mon expérience, est-ce que telle et telle chose est bonne ou mauvaise, est-ce que telle et telle chose est juste ou est fausse. C'est la première chose à déterminer. Sans, vous savez que dans la vie, on n'a qu'un rapport aux choses. L'homme n'a qu'un rapport avec l'extérieur. dans le rapport qu'il a avec l'extérieur, il est obligé de se retrouver lui-même. Et quelle est la notion qui fait que l'homme puisse être intéressé, passionné ou obligé de recourir à ce qui est vrai, ce qui est faux ou ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qui est bien et ce qui est mal? C'est la notion de ce qu'on appelle le Sra'ar et le Onesh. Le Sra'ar, mot à mot, c'est le salaire. Le Onesh, c'est la punition. La punition. Tout le monde marche comme ça. Il n'existe personne au monde qui puisse avoir une relation avec le bien et le mal, ou avec le vrai et le faux. Si le bien, le mal, le vrai et le faux ne le touche pas, en quoi ça va le toucher? Ça va le toucher dans ce qu'on appelle le Sahar et le Honnêt. Le Sahar, on n'est pas obligé de voir une récompense qui est donnée par le bon Dieu. Ça peut être mon évolution personnelle. Le Honnêt, ça peut être le manque d'évolution. Je ne peux pas, moi, demander à quelqu'un de jeter un regard et de juger quelque chose si, en dehors des références qu'il a pour juger, il n'a pas un intérêt, il n'a pas un rapport avec la chose qu'il doit juger. C'est pour ça qu'un enfant, vous pouvez toujours lui dire c'est bien ou c'est mauvais. Si en vérité le résultat est le même, qu'il prenne cette voie ou cette voie, il n'y a aucune différence. Le bien et le mauvais ne sont plus pour lui des notions qui se différencient, puisque de toute façon, il lui arrivera la même chose. Vous allez supprimer les appréciations, vous allez supprimer des notes dans une classe. Qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver que celui qui a bien fait, celui qui a mal fait, en vérité, vont être égaux, vont être comparables, et il n'y a aucune raison pour que celui qui a mal fait fasse bien, puisque de toute façon, il a le même avenir, on va dire il a le même Sahar et le même Onesh, que celui qui a mal fait et celui qui a bien fait. À partir de ce moment-là, on est obligé de comprendre une chose. Si je n'arrive pas à relier l'appréciation que j'ai des choses à quelque chose qui me concerne, cette appréciation devient caduque. De dire que c'est bon et c'est mauvais, si le mauvais n'attire pas le mauvais et le bon n'attire pas le bon, c'est une définition qui se perd. Bien, mal, il va arriver à la même chose. On va dire pire que ça. Plus je crois que ce qui m'arrive dans la vie est le fruit du hasard, et que je suis une victime qui n'a pas de rapport avec les événements. Mais les événements vous arrivent comme ça. Un jour on est bien portant, le lendemain on est malade. Ça veut dire que je ne peux pas me tracer mon avenir puisque je vis dans un monde qui est le fruit du hasard. On ne peut plus demander aux gens d'avoir une notion de ce qui est bien et ce qui est mal, ou de ce qui est juste et ce qui est faux. Pourquoi? Parce que ça ne changera rien dans l'avenir qu'ils puissent avoir et dans l'évolution qu'ils pourront avoir, puisqu'ils sont persuadés qu'ils sont le fruit, ou ils sont à la merci d'événements qui ne sont contrôlés par personne. Donc on assiste dans toutes les sociétés où la notion du Sahar et du Onesh, que la récompense ou la punition, ce soit matérielle, spirituelle, quelle qu'elle soit, à partir du moment où ça n'existe pas, on ne peut plus avoir de relation avec le vrai ou le faux, le mal ou le bien. Ça, c'est une notion qu'on doit comprendre. Chacun va bien comprendre que le rapport qu'il a avec les choses ou avec les événements sont le fruit de ce qui est chez lui la clarté du Sahar et du Onesh. Plus la notion de Sahar et d'Onesh sera claire, et plus il aura une notion et une relation qui sera forte avec ce qui est bien et ce qui est mal. Ça, tout le monde le comprend. Si un enfant, vous lui donnez des bonbons quand il fait bien et quand il fait mal, vous avez estompé chez lui, parce qu'il n'attend rien, la faculté qu'il a de discerner entre les choses et de s'approcher des choses. C'est ça la notion de Degel. De quelle façon ça prend une amplitude chez moi que j'ai un srar ou un onesh? Il y a des gens qui vont vous dire, moi je fais ceci, je ne fais pas cela. Pourquoi? Parce que demain, je vais me regarder dans la glace et je veux pouvoir. Qu'est-ce que c'est cette notion de se regarder dans la glace? Se regarder dans la glace avec plaisir, c'est leur sacha. Se regarder dans la glace et avoir honte, c'est leur onesh. Quelqu'un va vous dire autrement. Si je me livre à des actions dont je pense qu'elles sont mauvaises, j'ai créé du mal quelque part, et ça va prendre une amplitude que je ne pourrai plus contrôler. Et c'est ça le onesh. Dans le bien, c'est ça le sacha. Chacun est obligé de le relier à cette notion-là. Celui qui n'a plus d'espoir dans le srar et le onesh, il ne peut plus définir les choses et avoir un rapport avec une quelconque vérité ou avec un quelconque jugement. Dans ce rapport, qui est finalement la grandeur de la personne, parce que plus quelqu'un a de notions du Sakhar et de Onesh, et plus il grandit. Au commencement, lorsqu'on est petit, le Sakhar, ce sont des notions qui sont égoïstes, qui peuvent être même immorales quelquefois. Au fur et à mesure qu'on grandit, les notions s'affinent, et la notion du Sakhar et de Onesh, elle devient plus universelle ou plus absolue. Cette relation-là, elle s'appelle le dégain. C'est ce qui s'appelle grandir. Il est impensable, puisqu'on ne vit pas la même vie, puisqu'on n'a pas les mêmes expériences, puisqu'on ne vient pas par le même chemin, que chacun ait le même dégain, que chacun ait le même jugement, et on va dire la même avoda, la même démarche vis-à-vis de ce qu'il pense devoir faire dans sa vie. C'est ça la notion du dégain. En vérité, ça va beaucoup plus loin, parce que le dégain a une notion éducative aussi. Si vous laissez un enfant se passionner pour quelque chose, et vous laissez un autre enfant se passionner pour quelque chose de totalement différent, vous verrez que le développement des deux deviendra pareil, et ils auront accès à un savoir qu'on peut qualifier d'universel, par deux côtés totalement différents. Vous allez prendre un enfant à l'âge de 3-4 ans, vous allez lui enseigner les échecs. Et vous allez prendre un autre enfant à l'âge de 3-4 ans, et vous allez le passionner pour le mécano. Celui qui sera toute la journée avec son mécano, un jour, va avoir besoin de notions très définies. Combien j'ai besoin de pièces? Comment est-ce que je les différencie? Il va être obligé de lire. Il va être obligé d'écrire. Il va être obligé de calculer. Si vous le laissez tranquille, parce qu'aujourd'hui on ne sait plus laisser les enfants tranquilles, vers l'âge de 5-6 ans, il saura tout seul lire, écrire, calculer, compter. Il n'aura plus pratiquement aucune difficulté dans toutes les opérations banales où on met 3 ou 4 ans à l'école à lui bourrer le crâne, alors que ce sont des notions théoriques. Et pourtant, il est parti de tout à fait à l'autre côté. Vous allez même lui donner du travail manuel. se passionne pour le bois. On ne peut pas se passionner pour le bois plus que quelques années sans être obligé d'accéder à un certain savoir que celui que vous allez passionner pour l'orthographe ou pour n'importe quel autre métier, dirons-nous, trouvera exactement la même démarche. C'est-à-dire que la notion du dégel, elle est que l'abord est différent, les démarches sont différentes, mais ce à quoi on accède, ça reste quelque chose qui est plus ou moins universel. Mais on ne peut pas l'aborder du même côté. Si vous abordez du même côté, alors on fait ce qu'on fait aux enfants d'aujourd'hui, c'est qu'on apprend tous la même chose de la même façon. Et puis il y en a un qui ne veut pas apprendre. Alors on croit qu'il est bête, on croit qu'il n'arrive pas à se concentrer, on croit qu'il est perturbé. Tout simplement, c'est pas son dégueu. Lui, d'apprendre à multiplier les choses parce qu'on lui a fait bêtement réciter les multiplications, ça lui dit rien. C'est pas comme ça qu'il procède. Vous allez lui donner des dominos entre les mains, il vous fera les multiplications tout seul aussi. Ça mettra plus de temps, mais c'est un savoir auquel lui, il aura pu accéder parce qu'il aura eu son dégât. Dans la pensée, c'est la même chose. Dans la façon qu'on a de se voir et d'aborder les événements, c'est exactement la même chose. À la fin, il y aura à peu près un consensus dans ce qui est émettre, vrai, ce qui est faux, ce qui est bon et ce qui est mal. Mais la façon de l'aborder, elle est totalement différente. Et cette façon d'aborder, elle est très importante pour l'homme, parce qu'on ne peut pas faire d'un homme le klal. On ne peut pas réduire l'individu à la notion de collectivité. Sans sacrifier l'individu quelque part, c'est la raison pour laquelle on a averti tout de suite. Au moment où Akadosh Baruch Hu a donné la Torah à l'homme, il a averti qu'il y aurait différents de Galim, il y a différentes notions, il y aura différentes écoles. C'est des choses qui peuvent très bien cohabiter, mais le but final sera exactement le même. Et la connaissance des choses, finalement, elle sera pratiquement la même. Seulement l'abord sera différent. Ça, c'est la notion du dégel. C'est pourquoi il est écrit dans le verset « Vediglo alai ahava ». Pourquoi est-ce que parle-t-on de « ahava » qu'on traduit en français par « amour » ? Parce qu'on a déjà dit souvent que le mot « ahava » veut dire « tenir compte de l'autre ». À partir du moment où je tiens compte de l'autre, je suis obligé de le respecter, peut-être pas dans la façon qu'il a de déterminer si quelque chose est vrai et faux. Je peux dire qu'il a tort, je ne respecte pas cette opinion. Je peux avoir de bonnes raisons et lui mettre le droit de la façon dont je pense qu'il se trompe. Parce que le respect de toutes les opinions, normalement, ça mène au fascisme. On ne peut pas respecter tout le monde. Tout n'est pas respectable. Tout n'est pas juste. C'est pas parce que quelqu'un pense quelque chose et qu'il le dit que c'est respectable. Mais il y a une chose que je dois respecter, c'est son dégaine. Il y a une raison pour laquelle il est arrivé à ça. Et cette raison-là, quelque part, est respectable. Ça veut dire qu'il est impensable de donner un dégel ou de laisser grandir une personne selon sa propre méthodologie si on ne le respecte pas entièrement. C'est la raison pour laquelle vous verrez que dans les cursus scolaires, normalement on respecte tellement peu les enfants qu'on exige d'eux qu'ils se mettent dans un moule. Il y a celui qui arrive et qui fera les comptes après, celui qui n'y arrive pas du tout, il fait les comptes tout de suite. Dans la société, c'est la même chose. On est obligé de mettre les gens dans des moules. Dégel, et c'est ça la hava, c'est de tenir compte des besoins de l'autre. Et chacun peut avoir d'autres besoins. Nous, on va plus loin, puisque chacun, au début, peut avoir une autre démarche, et peut-être même une autre vérité à la fin. À partir du moment où elle a la même rigueur que les autres, à partir du moment où elle tient compte des mêmes informations que les autres, alors elle est honorable. Ça fera partie des mêmes têtes de varie. Ce sont les 49 choses, les 49 façons de considérer chaque halakha et chaque dîme de la Torah. Alors vous allez me dire, ça veut dire que quoi? Que si on me dit que ça c'est interdit ou ça c'est permis, en vérité ça ne veut rien dire, parce que ça peut être le contraire. C'est faux puisqu'il y a une halakha. Chaque vérité n'est pas bonne ou peut ne pas exister dans nos démarches. C'est pas parce que quelque chose est vrai par rapport au texte de la Torah ou par rapport à ce qu'on a pu récupérer de la Torah orale que ça existe comme démarche. C'est pour ça que on a la loi de la majorité. Encore une fois, la loi de la majorité doit toujours donner à la minorité le pouvoir de s'exprimer. Mais à une condition, c'est que la minorité accepte de se conduire comme la majorité. Sinon, ça ne veut plus rien dire. On ne peut pas faire chacun le contraire et penser qu'on puisse vivre ensemble. Ici intervient la notion de klal. C'est-à-dire que ça peut aller très loin. La halakha, elle peut changer au cours des générations. Et selon ce qu'elle va changer, je serai obligé de m'y soumettre. Ça veut dire que la vérité devient absolue par ce qu'on appelle la décision. Si on a décidé de mettre un sens interdit quelque part, on peut avoir mille raisons de s'opposer. Mais on n'a pas le droit de rouler en sens interdit, parce qu'on est un danger public. Celui qui roule en sens interdit, il va se payer un camion exactement en face. Il dit, mais je ne comprends pas, j'avais raison, tu avais raison. Mais la démarche n'a pas été définie comme celle, on va dire, qui marche. Comme le émet maintenant. Alors c'est peut-être émet dans une autre génération, dans un autre monde, mais ici c'est plus émet. Ah, par rapport à l'absolu, ça peut être émet, mais ce n'est pas intéressant. C'est intéressant au niveau de la théorie, ça n'est pas intéressant au niveau de la pratique. Ça, c'est la notion de dégel. Si quelqu'un veut grandir, on est obligé de lui donner une forme de ahava, d'amour, qui est de tenir compte de ce qu'il est. C'est pour ça que Shlomo HaMelech a dit « Chanoch l'anahar alpi darko ». Éduque l'enfant alpi darko, selon son chemin. Gam ki azkin. Alors même lorsqu'il deviendra vieux, lo yasur mimeno. Il ne quittera pas son chemin parce que c'est le sien. Mais si tu lui fais adopter un autre chemin qui n'est pas le sien, qui est contre sa nature, à ce moment-là, il est impossible qu'il puisse tordre sa nature à chaque fois. Donc tu es obligé de tenir compte de sa nature. Maintenant, dans le résultat, on peut arriver exactement au même. Dans la façon d'éduquer, pour un adulte de s'éduquer, il va être obligé de tenir compte de son dégel, de ce qu'il est lui, pour pouvoir grandir. Pire que ça encore. Le mot dégel, en vérité, qui est mot ligdol, les chachamim dans le Midrash l'ont encore inversé. Et ils le font remonter jusqu'à le mot dilug. Prenez les lettres, vous verrez aussi que degel, godel, doleg. Doleg, ça veut dire passer outre ou passer dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Et moi, Rashi dit, voilà. Quelqu'un qui étudie la Torah, il déforme les mots, parce qu'il ne les comprend pas bien. Un enfant qui lit et qui se trompe dans la traduction. Omer à Kadosh Baruch Hu, il dit, laissez-le, ve diglo ala yahava. Ça aussi, j'aime ça. Ça veut dire que l'erreur elle-même, ça fait aussi partie du dégel. Puisqu'on est différent, et puisqu'on a le droit de s'exprimer, on a le droit aussi de tenir compte de l'erreur. Parce que sinon, on ne peut pas grandir non plus. Quelqu'un qui est toujours obligé de faire bien, et qu'on ne laisse pas trébucher lui-même, ne peut pas grandir non plus. C'est pour ça que la Gemara est dans le traité de Kiddushin. En Adam Omed al Divre Torah, et la Imken Nirshal Baem. Un homme ne comprendra véritablement ce que veut dire la Torah que si Nirshal Baem s'est trompé. Au moment où tu es trompé, tu rectifies, là tu es arrivé exactement à ce qu'il faut. Mais si tu t'es jamais trompé, tu n'as jamais remarqué qu'il y a quelque chose qui ne va pas, alors tu n'es pas arrivé à la profondeur de ce que la Torah voulait. Ça veut dire que l'erreur elle-même, ça fait aussi partie de l'idole. Mais de nouveau, là, une condition. Ahava. Si tu n'es pas capable de te gérer vis-à-vis des défauts de l'autre, alors il n'y a pas de Ahava. Ça ne veut pas dire qu'il faut aimer les défauts des autres, mais ça veut dire qu'il faut aimer l'autre avec ses défauts. Les défauts eux-mêmes, on n'est pas obligé de les aimer. De même qu'on ne doit pas aimer les qualités des gens, on doit les aimer avec les qualités. Parce que aimer les qualités, ça veut dire qu'on n'aime pas les gens. Parce qu'on n'arrive pas à extraire les qualités des gens. Il y a encore une autre signification. Le mot dogel en hébreu, dérivé du drapeau, du mot dégel, ça veut dire prendre cause ou prendre fait pour quelque chose. Et là, on arrive à une autre notion qui est pratiquement la plus importante. Lorsque quelqu'un dit drapeau, il dit aussi rassemblement. Ça veut dire que je dois être capable, pour pouvoir grandir, de prendre fait et cause pour une cause qui me semble vraie. À partir du moment où je n'arrive pas à être dogel, dogel en hébreu veut dire militer. À partir du moment où je n'arrive pas à militer dans quelque chose, ça veut dire que j'ai un recul vis-à-vis ou du Emet et pas du Emet, ou du Ra et du Tov, qui fait que je ne peux pas grandir. Vous observerez que plus on est jeune, plus on est militant. Parce que plus on est jeune, et plus on espère dans le Srar et dans le Honesh. Un jeune, vous pouvez parler des lendemains qui chantent. Plus on s'avance en âge, et plus on y a renoncé, peut-être parce qu'on croit qu'on n'y a pas droit, on n'est pas capable, ça dépend des motivations. Il y a des gens qui restent toujours jeunes. Quelqu'un qui pense avoir un avenir, ou qui croit dans les choses, il est obligé de militer. Si je ne milite pas, c'est parce que je ne réfléchis pas en notion de Sakhar et de Honesh, je réfléchis dans une autre définition, qui est celle de savoir qu'est-ce qui vaut plus la peine sur l'instant présent. Et ça, c'est le contraire du Sakhar et du Honesh. On va essayer d'expliquer. Tout le monde comprend que ce qui est gratifiant dans la vie, c'est pas ce qu'on reçoit des autres, ou ce qu'on reçoit dans l'événement présent, mais c'est ce qu'on a fait soi-même. On a déjà dit, la seule chose qui appartient à l'homme, finalement, c'est son effort. C'est ce qu'il a donné. Il ne me reste que ce que j'ai produit moi. Tu peux être le plus intelligent, le plus beau, le plus fort. C'est le bon Dieu qui t'a donné ça. Celui qui ne croit plus que l'effort quelque part va lui donner une gratification, il est obligé de penser à toucher des dividendes de l'événement présent. En français, on appelle ça un lâche. Pourquoi on appelle ça un lâche? Parce que ça veut dire qu'il a lâché l'idée, il a lâché la cause. Lui, il est content. Il n'essaye pas de toucher des dividendes. Il n'essaye pas d'investir. Il essaye tout de suite de récupérer. Dans le temps, on voit une notion qui est que plus les dividendes sont longs à toucher, et plus ils sont gratifiants. On va donner un exemple de la paracha de cette semaine. Tout le monde connaît l'histoire de Léa et de Rachel. Yaakov Avinu s'est marié et était marié normalement à Rachel. Et Lavan, le père de Rachel et de Léa, a obligé Léa. Et Léa est venue chez Rachel et lui a dit, il va tout de suite comprendre. Ok. Tous les enfants connaissent cette histoire-là. S'ils ne connaissent pas, c'est la suite. La suite, c'est que Rachel, qui était ce qu'on appelle Akeret Abayit, c'était le centre de la maison de Yaakov, a dû subir de la part de Léa des vexations et des ennuis, et elle n'a jamais ouvert la bouche en lui disant, finalement, c'est grâce à moi que tu es dans la place. Quand est-ce qu'elle a ouvert la bouche? Le Midrash, au commencement de la Megillat Echa, nous raconte ceci. Au moment de la destruction du temple, Avraham Avinu est venu chez Akadosh Baruch Hu et lui a dit, il faut que ce ne soit pas la fin du peuple juif. Il a dit, donne-moi tes arguments. Et Avraham Avinu a donné ses arguments. Akadosh Baruch Hu lui a dit, ouh, avec toi j'ai un encontre. Tu as fait ceci, tu as fait ceci, tu as fait ceci. Est venu Yitzhak, la même chose. Je vous passe tout le Midrash. Est venu Yaakov, la même chose. La dernière qui est venue, c'est Rachel. Elle a dit ceci. Moi, je suis faire passer ma sœur avant moi. Qu'est-ce que tu reproches au Béné Israël? Qu'ils ont fait passer d'autres choses avant la Torah. Alors ce que moi j'ai supporté, il est évident que toi aussi tu peux le supporter. C'est à ce moment-là qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit ce qui est écrit par le prophète Jérémie, Kol Brahma Nishma, Nei Brechi Tamrorim, Rachel Mevaka Albanea, que lorsque les enfants d'Israël sortiront de la galoute, ils passeront devant le tombeau de Rachel, et au moment où ils reviendront de la galoute, ils repasseront aussi par le tombeau de Rachel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque tu dois toucher des dividendes, plus tu attends, et plus elles prennent de valeur. Et si en plus, tu peux toucher des dividendes de la part du bon Dieu et pas de la part de celui à qui tu as rendu service, alors tu as encore beaucoup plus gagné. Ça veut dire que lorsque j'investis, l'idée du Sakhar et du Onesh, elle ne sera jamais étrangère. Parce que si elle est étrangère, il n'y a plus de moteur. Vous enlevez à quelqu'un la notion du Sakhar et du Onesh, il est fichu. Pour les uns, le Sakhar, c'est la retraite. Pour les autres, c'est l'Olam Haba. Il y en a pour qui c'est le train électrique. Chacun a sa Sakhar et chacun a son Onesh. Vous enlevez cette notion à quelqu'un, il est fichu. Mais pour que la notion garde toute sa valeur et qu'elle perde sa perversité, qu'elle perde sa petitesse, il faut l'éloigner le plus possible. C'est pour ça que nous parlons en termes de Olam Haba. Olam Haba, le monde à venir, personne ne connaît, personne ne sait comment ça va se passer. C'est une notion qui est très floue. Mais au moins, celui qui investit là-dedans, on ne peut pas dire qu'il cherche tout de suite à toucher des dividendes. Et malgré tout, il est écrit dans les Pirkei Avot qu'un homme ne doit pas être Meshamesh et Arav, il ne doit pas servir à Kadosh Baruch Hu, al menat le kabel pras, pour toucher des dividendes. C'est-à-dire que ça ne doit pas être la condition. Mais ça doit exister. Tu ne dois pas poser de conditions. Tu ne dois pas te plaindre dans la vie, j'ai fait telle et telle mitzvah, regarde ce qui m'arrive. J'ai fait tant de bien, et regarde ce qui m'arrive. Ça, ne fais pas almenate, ne fais pas à condition, parce que le bon Dieu n'accepte aucune condition. Mais, il y a une vérité qui est là. Tu as fait quelque chose. Tu as placé. Ne pas relier et ne jamais faire à condition. Ça, d'accord. Mais ça doit exister. Celui qui pense que c'est trop petit, c'est parce qu'en vérité, il veut toucher les dividendes tout de suite. C'est le gars qui vous dit, moi, l'Olam Haba, ça ne m'intéresse pas. Moi, je fais telle et telle chose parce que je veux me sentir bien. Parce que je veux me regarder demain dans la glace. C'est parce qu'il veut toucher les dividendes tout de suite. Il les veut le lendemain matin. C'est son consentement, son contentement qui sont les dividendes. C'est son propre plaisir qui est les dividendes. Ça n'a aucun intérêt. C'est un enfantillage masqué en un langage d'adulte. Les seuls dividendes que nous pouvons toucher, c'est le rapport que nous avons vis-à-vis de la Kadosh Baruch Hu. Parce que finalement, c'est le seul envers lequel nous investissons. C'est ça la notion de dégaine. Ça veut dire qu'il y a une bannière, rejoins-la. L'idkol, soit dogel, ça veut dire investis-toi. Il y a une vérité, vas-y, fonce. Ça va te coûter temps et temps. Aujourd'hui, tu vas y perdre. Mais c'est à cette condition qu'on grandit, sinon on reste petit. C'est-à-dire que le monde entier est plein de gens qui avaient 1000 bannières, 1000 drapeaux auxquels ils pouvaient adhérer. Ils ont laissé passer. Et finalement, ils ont toujours tellement touché de dividendes sur le moment qu'ils n'ont pas d'avenir. C'est ce que le verset vient dire ici. Vediglo alai ahava. Pour faire ça, la seule notion c'est ahava. Ça veut dire, je dois avoir l'amour de la vérité. Je dois avoir l'amour du vrai et pas du faux. Au point que je suis dogel. Je suis quelqu'un qui mérite. Je laisse, je ne prends pas parti. Je laisse les choses, j'observe. C'est qu'au fond, j'ai un intérêt à observer. Celui qui a intérêt à observer, c'est le contraire. C'est pour ça qu'un enfant, on n'a jamais le droit de le restreindre lorsqu'il pense qu'une idée est juste et lorsqu'il milite quelque part. Parce qu'il ressemblera assez tôt aux adultes. Et c'est pas la peine tout de suite de lui montrer que rien ne vaut la peine et qu'il n'y a pas de star et de relâche. Plus on y croit quand on est petit, et plus l'idée reste quand on est grand. Finalement, tout le monde est d'accord qu'ici, il y a trois pshatim. Degel vient du mot godel. On doit garder la spécificité de chacun pour pouvoir grandir. C'est une notion. La deuxième notion, l'erreur. La troisième notion, militer. Maintenant, il faut essayer de comprendre. Je milite. Je vais selon ce que je pense être ma nature dans la façon que j'ai de pratiquer les mitzvot. J'ai droit à l'erreur. Même lorsqu'on fait une erreur, c'est apprécié aussi. Ces deux notions-là, elles sont difficiles de gérer ensemble. Parce que si je dis que Degel, c'est celui qui se trompe, c'est que finalement, dans quel sens tu vas, c'est pas très important. Puisque l'erreur n'est pas importante. Le principal, c'est l'effort. Ça veut dire que ce qui devient le plus important, c'est le sachar et le onesh, et pas si c'est vrai et c'est faux. Est-ce qu'il n'y a pas une notion du bien et du mal qui est objective? Et que si je me suis trompé, ben j'ai tout faux. Je vais donner un exemple. Moi, je choisis une certaine forme dans ma pratique des mitzvot. Pourquoi? Parce que ça correspond à ma nature. Je vais mettre l'accent plus sur une mitzvah, plus sur une autre mitzvah. Chacun le fait automatiquement. Il est obligé de se placer. Ok. Il y en a qui va apprendre plus la halakha, l'autre il va apprendre plus la agada. L'un il va mettre plus l'accent sur les mitzvot positives, l'autre sur les mitzvot négatives. Chacun selon ce qu'il comprend. À partir du moment où on lui fait dire que même s'il se trompe, tu as aussi le Degel et c'est aussi la Hava, on pourrait avoir l'impression que c'est pas tellement important si c'est juste ou si c'est faux. Si c'est vrai, comment est-ce qu'on arrive à gérer les deux en même temps?
Pire que ça.
Quelquefois le vrai, on ne peut pas le faire. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce que ça marche? Je vais donner un exemple. La Gemara raconte que le premier sacrifice de Rosh Chodesh a eu lieu au moment de la mort des fils de Aaron. Et Moshe Rabbeinu s'est trompé dans le din. C'est Aaron qui lui a remis les idées en place. Il est écrit dans le Midrash Shalach Bechol Gvul Israël. Moshe Rabbeinu a envoyé dire Beram Dvarim She'amarti Taout Embeadi. Ce que j'ai dit, j'ai fait une erreur. Je vous ai enseigné ceci. C'est pas comme ça.
Ok, très bien.
Il y a deux options. Il y a l'option de celui qui est humble. Mon cher Rabbeinu, c'était Anav Mikoladam, le plus humble des hommes. Alors il est normal, je me suis trompé. On va avertir tout le monde que je me suis trompé. Sinon, il y a un risque énorme. C'est toi qui as transmis dans la Torah. La Torah, elle s'appelle Torah de Moshe. Et si tu t'es trompé encore autre part, alors on va où, nous? Ça, c'est bien d'être humble. C'est bien de faire passer son humilité avant tout. Mais une notion qui s'appelle la notion de responsabilité. Tu peux quand même pas, la première fois qu'on fait un sacrifice, de dire « je me suis trompé ». Parce que maintenant, c'est comme ça. On va remettre tout, on va regarder. Et là, tu seras plus là pour nous dire « je me suis trompé ». Alors, qu'est-ce qu'on fait? Encore une fois, je ne dis pas ce qu'il a fait, c'était bien, pas bien, moi je ne juge pas. Je vois qu'on est obligé de... La notion de responsabilité, elle est juste aussi. Fais peut-être passer la Torah avant. Et tu peux dire à Aaron sans que personne ne sache. Je me suis trompé, de toute façon il n'avait dit à personne, mon cher Abel. Je n'ai pas obligé de raconter partout. C'est vrai, le bon Dieu m'a dit quelque chose et je me suis trompé. Ici, hein, quelqu'un de responsable, on lui dit, bon, on arrête. Quelqu'un de humble, on dit, on va raconter ça à tout le monde. Les deux sont des vérités. On n'est pas seul dans la vie. Il s'agit du peuple juif dans son ensemble, du don de la Torah. Comment est-ce qu'on fait? Des dilemmes comme ça, hein? Chacun en a dans sa vie plein. Si on vient, on me dit, de toute façon, t'as droit à l'erreur, c'est pas grave. Je dis glo à la Yahava. Le bon Dieu t'aime autant même si tu te gourmes. Et alors, ça n'a plus d'importance. Pire que ça, comment est-ce que moi, on peut me demander après de faire des efforts et de militer dans ce que je pense être vrai, puisque finalement, c'est pas ce qui est vrai ou faux qui a de l'importance, c'est de faire des efforts. On va pas jusqu'à dire que, à pile ou face, rien n'a d'importance. Mais lorsque je ne sais pas, comment est-ce que je vais m'en sortir? Vous comprenez? Et ça, si vous réfléchissez, vous verrez que c'est dans beaucoup d'attitudes dans la vie. Souvent, le chemin du vrai s'oppose au chemin du bon. Si on veut être vrai avec les gens, on est rarement bon. Et si on est bon avec les gens, on est rarement vrai. On va aller pire que ça. La notion même de shalom. On fait la paix. Elle est pratiquement impossible à conjuguer avec la notion de vérité. Si tu racontes tout ce que tu penses être vrai et tu dis à tout le monde tout ce qu'il pense être vrai, tu ne seras en shalom avec personne. Et si tu es en shalom avec tout le monde, rarement tu auras l'occasion de dire la vérité. Alors ça ne suffit pas de le dire maintenant. C'est pas grave, le principal c'est de faire des efforts. Je vois plus où passe. Vous comprenez? Je ne dis pas que j'ai la solution, mais il y a peut-être une solution. On doit toujours essayer de faire ce qui est le moins gratifiant pour sa propre personne est le plus gratifiant pour ce que je pense être vrai. C'est ce que nous appelons le Shem Shamaï. Chaque fois que j'ai mon intérêt dans l'affaire, que c'est mon intérêt de faire ou le shalom, il vaut mieux que je fasse la vérité. Et chaque fois que c'est mon intérêt de dire la vérité, il faut toujours que je fasse le shalom. Parce que la seule notion qui justifie la relativisation de la vérité et le droit à l'erreur, c'est si c'est fait dans un but qui n'est pas le mien. Chaque fois que c'est fait dans un but, qui est celui de celui qui m'a demandé de faire la mitzvah, c'est pas très très grave si je me trompe. Mais chaque fois que je touche un dividende tout de suite, c'est que ça doit être très grave. Moshe Rabbeinu, il a fait un compte très simple. Qu'est-ce qui est le plus embêtant pour moi? D'être responsable ou d'être vrai? D'être vrai. Alors on le fait. Ça veut dire que la vérité ne devient relative. Et l'erreur devient quelque chose qu'on peut apprécier. Seulement si c'est fait ce qu'on appelle le Shem Shamaï. Un enfant, il vous amène un dessin. Le dessin, il est positivement horrible. Il y a une sorte d'enfant à qui il est très facile de dire c'est beau. Celui dont on sait qu'il a mis tout son cœur pour vous faire plaisir. C'est facile de lui dire que c'est beau. Mais celui dont vous voyez qu'il ne recherche que le compliment, c'est d'une difficulté extrême de lui dire que c'est beau. C'est-à-dire qu'on ne peut aimer le défaut que si on voit que ça a été centré sur l'autre. Quand c'est centré sur soi, c'est inacceptable. Non seulement tu cherches le compliment, mais en plus le dessin est moche. Ça, c'est déjà trop. Ça veut dire que ce qui est ici marqué dans le Midrash, le dégain, tu peux t'accrocher à la bannière. Milite. Tu vas te tromper, c'est pas grave, t'as milité. Ok. Mais seulement si c'est dans un sens qui ne rapportera qu'au bon Dieu, mais toi, il te rapportera. Parce que c'est trop de lui demander de dire à un égoïste que c'est bien. Ça, on ne peut pas. C'est-à-dire que chaque fois qu'un homme a un dilemme, il doit essayer de savoir qu'est-ce qui est le plus le Shem Shamaï, mais le moins pour moi. Et là, il peut commencer à trancher. Encore une fois, même le Shem Shamaïm existe la notion du Sachar et du Onesh. Il y a la récompense et la punition. On n'échappera pas à ça. Ça, c'est la petitesse de l'homme. Mais on peut ne pas en tenir compte. On peut le savoir, mais ne pas en tenir compte. Si on ne le sait pas et ça n'existe pas, il n'y a plus de moteur, il n'y a plus de rapport aux choses. Si personne n'en aura rien, et si moi j'en aurai rien, cela m'importe peu que ce soit comme ça qu'il faille faire ou comme ça. Aucun intérêt. On ne peut pas s'investir dans une idée si cette idée n'aboutit pas à quelque chose qui est gratifiant. C'est impossible. Mais on peut ne pas y penser au moment où on s'investit. Mais on ne doit pas tomber dans le travers inverse non plus. Il y a là où tu as des inconvénients, c'est là qu'il faut travailler. C'est pas toujours comme ça non plus. Faut pas tomber dans le travers, ça, dans le travers inverse. Et ça, c'est une notion qu'il faut savoir. Chacun a sa propre avoda et c'est normal. On ne peut pas demander aux gens de peser, de sentir les choses de la même façon. Mais ça n'est que dans la façon d'exprimer. Parce que le fond, c'est ce qu'on fait pour l'autre. Et c'est ça qui est important. Encore une fois, on ne peut pas s'investir dans des causes en jouant à pile ou face. Parce que si on ne sait pas qu'on va vers quelque chose qui est à l'avenir, c'est pas la peine de le faire non plus. Mais on peut relativiser les choses de cette façon-là. Vous avez sûrement des questions. Je vais vous dire sur quoi je m'appuie. C'est que d'un côté, on a toutes les chances de se tromper, et de l'autre côté, on a le moins de chances de se tromper. Chaque fois que je me mets en travers de quelque chose, j'ai toutes les chances de me tromper. Chaque fois que je ne mets même pas en travers de quelque chose, mais c'est pour l'autre, j'ai peu de chances de me tromper. Parce que la principale raison pour laquelle un homme se trompe, c'est parce qu'il n'arrive pas à enlever son intérêt de son jugement. On va donner un exemple qui est très simple. La Emouna, on a déjà dit, ça n'est pas seulement le fait de croire que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui m'a donné la Torah, qui ceci, cela. C'est de pouvoir le traduire dans les faits. Trazoni, je vous donne un exemple, on l'a déjà donné, on va le répéter. J'ouvre un magasin. Tous les jours, à la sortie du magasin, je me rends à la synagogue. Et je remercie Akadosh Baruch Hu parce que je sais que c'est lui qui amène la parnassa. C'est pas le client. Malheureusement, Shimon a ouvert le même magasin que moi, juste en face. Et au lieu d'aller à la synagogue et de remercier le bon Dieu, puisque de toute façon la parnassa ne vient pas des hommes, elle vient du bon Dieu, je vais au Bédine pour demander qu'est-ce qu'on peut faire avec ce Shimon qui trouble ma parnassa. Comment est-ce que j'ai passé d'une idée à l'autre? Dans les Sfarim, il y a un exemple. Vous prenez une glace. Vous vous voyez. Vous enlevez l'argent. Vous voyez les autres. Ça veut dire que la difficulté du jugement, c'est de s'exclure du jugement. Maintenant, je peux vous donner encore une autre façon de juger. C'est que au lieu de juger vous-même, vous allez demander à quelqu'un d'autre et vous faites ce qu'il vous dit. Ça aussi. Mais en vérité, ça part du même départ. Je sais que chaque fois qu'on se voit dans la glace, ça fausse le jugement, on voit les autres autrement. Pire que ça, il est écrit dans le verset. Vekamta valita el amakom, lorsque tu auras un problème, tu viendras et tu iras à Yerushalayim, là où il y a le Sanhedrin, et tu feras que shchol asher yorucha, comme ils t'enseigneront, lotasur minadavar, tu n'as pas le droit de t'écarter, minadavar, asher yagidu lecha, de ce qu'ils te disent, yamin ou smol. Gauche et droite. Demande à Gomar, que ça veut dire gauche et droite? Même s'ils te disent sur la gauche quelle est la droite, et sur la droite quelle est la gauche. C'est quand même difficile. Vous allez chez le Dayad. Il dit, lève ta main gauche. Ah, tu lèves sa main gauche. Mais non, on t'a dit la gauche. Bah, il lève l'autre main. Non, il n'arrive pas. Comment est-ce qu'on peut me demander à filou yamrulcha, al yamin shu smol, val smol shu yamin? Comment on peut arriver à faire ça? C'est très simple. Si vous allez dans un bédin, vous allez voir qu'il y a les juges qui sont de ce côté et vous, vous êtes en face. Votre gauche, c'est leur droite. Et votre droite, c'est leur gauche. La Torah dit, voilà, quand tu as un problème, ne regarde pas ta gauche et ta droite à toi. Regarde celui qui est en face de toi et laisse le juger. L'otasur min adavar asher yagidulcha yaminu smol afilu yamulcha al smol shumin. Toi tu es sûr, puisque tu te vois comme ça. Mais eux ils te voient de l'autre côté. Quand ils te voient de l'autre côté, c'est eux qui ont raison. Et même si tu penses que c'est à droite, en vérité réfléchis bien, ta droite c'est leur gauche. Et ta gauche c'est leur droite. C'est ça ce que ça veut dire. C'est pas que ça veut dire lève ta main gauche, alors que le type lève sa main droite. C'est que place-toi de l'autre côté et tu vas voir les choses totalement différentes. La gauche va être la droite et la droite va être la gauche. C'est cette façon-là, mais en vérité ça revient au même. Parce qu'on n'a pas toujours besoin des autres pour savoir se retirer de la photo. On peut aussi théoriquement se retirer de la photo et on peut juger convenablement. Voilà. Ça, sûrement pas. Mais lorsque j'ai un dilemme et que je ne sais pas, c'est très souvent les autres qui ont raison. C'est pour ça que je vous dis que quand on s'enlève de la photo soi-même, on tombe très souvent sur ce que les autres vous disent. C'est vrai, il faut savoir s'enlever de la photo. Ça va plus loin que ça encore. C'est que la seule vraie notion qui échappe à l'erreur et au émet, c'est la notion du Shem Shamaï. Parce que c'est ça le vrai émet. Donc si soi-même on arrive à déterminer qu'est-ce qui est vraiment le chemin de Shem Shamaï, alors on a trouvé le émet. Alors pourquoi est-ce qu'on va le chercher plus loin? Encore une fois, ça c'est lorsqu'on hésite entre deux conduites. Mais lorsqu'on est persuadé, on ne va pas aller faire le contraire exprès. Ouais.
Dans la notion de l'échec Shamaïm, il n'y a pas eu perte jusqu'au bout de l'activité de Sakhar et d'Ornesh à ce moment-là.
Je vais vous dire. Il y a une perte dans l'intérêt, mais il n'y a pas de perte dans la conscience. S'il n'existait pas le Sahar et le Honesh, même la notion de Shem Shamaïm, elle n'existe pas. Et vous croyez qu'il n'y a aucune gratification de faire les choses de Shem Shamaï? Donc c'est ça le Sahar. On raconte la même histoire sur le Gaon de Vilna. Un jour, il n'avait pas de étrog à Soukhot. Il a entendu que dans une ville très loin, il y avait quelqu'un qui avait un étrog. Alors, ses élèves sont allés. Ils ont demandé à la personne de venir pendant Soukhot. Ou à Soukhot, chez le Gaon de Vilna. Il a dit qu'il ne peut pas, mais il va faire une condition avec le Gaon de Vilna. Il lui donne son étrog pour Soukhot, mais tout le Sahar que le Gaon de Vilna aura pour la mitzvah, ce sera pour lui. Ah, ils sont venus. Le Ganeva était très content. Il a dit, pourquoi tu es content? Il a dit, parce que c'est la première fois que j'ai l'occasion de faire quelque chose où j'aurais rien du tout. Le fait qu'on n'ait pas souvent l'occasion de faire quelque chose où on n'a rien du tout, ça veut dire que ne rien avoir, c'est le meilleur du Sahara. Comment ça va se passer? On ne sait pas. Mais c'est comme Issachar et Zevulun. C'est la même notion. Zevulun allait faire du commerce pour que Issachar puisse étudier la Torah. Donc il se partageait le Sahar de Issachar. Il est évident que Issachar ne perdait rien. Et que ce n'est pas le partage avec Zevulun qui dépréciait ce qu'il faisait. Mais il se partage quand même. Alors comment se passe ce partage? On ne sait pas. Mais il n'y a pas mieux que de partager avec l'autre. Ils ont encore une autre notion. Ils disent qu'il n'y a rien de plus entier qu'un cœur brisé. Réfléchissez-vous d'ailleurs, c'est la même notion. Il n'y a rien de plus entier qu'un cœur brisé. Attention, je n'ai pas les gars recherchés. J'ai la difficulté, ce n'est pas toujours le critère.
Oui, vous avez dit une fois à un des cours, au nom du Code de l'Ina, qu'un des moyens de savoir ce qui correspond à son arbre-là, c'est de donner une femme.
Ça, c'est autre chose encore. C'est pas lorsque j'hésite entre deux notions. Ça, c'est autre chose, c'est une autre notion. Si quelqu'un veut savoir de quoi est formé sa neshama, il doit regarder les mitzvot les plus faciles et les mitzvot les plus dures. Sa avoda, c'est de se mesurer aux mitzvot les plus dures et de ne pas s'attacher aux mitzvot les plus faciles. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est lorsqu'on veut savoir quelle est sa spécificité. Pas lorsqu'on hésite entre deux notions. Il y a des notions qui s'opposent dans la vie. On est bien obligé de trancher. Là, c'est pas qu'il y a des notions qui s'opposent. Parce que quelqu'un se cherche. Alors il doit savoir, hein, qu'il doit aller. Ce qui lui est dur, c'est là où il doit travailler. Ce qui est faible, c'est ça qu'il doit compléter. C'est pour ça qu'on met les tefilines sur la main gauche et non sur la main droite. Parce que la main droite, on n'a pas besoin de la ranger. C'est la main gauche qu'on doit ranger. Donc on met les tefilines sur la main gauche. Ce qui est parfait n'a pas besoin d'être parfait. Oui. D'accord.
Vous avez dit égal c'est car monsieur. Est-ce que vous pouvez expliciter ce que vous le montant que
vous? C'est pour ça qu'on a dit même tête palim le can, même tête palim le can. Lorsque Moshe Rabbeinu a reçu la Torah, il a eu 49 façons de dire qu'une chose est permise, 49 façons de dire qu'elle est interdite. Pur, impur, faux et juste, 49 façons. C'est à ça que correspond Degel. C'est pas mal. Maintenant, c'est vrai que pour accéder à la connaissance, il y a 49 portes. Mais ça vient du même Midrash. surtout n'additionnez pas les deux chiffres et n'en tirez aucune conclusion.
Le prochain cours, le 9 décembre et le 23 décembre.
Ouais.
Les 15. Les prochains cours sont de 15 jours en 15 jours, le 9 novembre, le 9 décembre, ça prouve qu'on écoute, et le 23 décembre.
Vous avez la référence.